2021.
VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde aujourd'hui. Ce bulletin d'information sera suivi d'une édition spéciale rétrospective de l'année qui vient de s'écouler, présentée par Michel Joseph. Nous sommes le vendredi 1er janvier 2021. Bonjour, bienvenue, bonne année à tous. L'ancien ministre Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir au Niger, a encore accru son avance jeudi soir selon les résultats partiels du premier tour de la présidentielle du 27 décembre, alors que les résultats de 156 des 266 communes ont été compilés par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, selon son site. Selon une source proche du pouvoir, rapportée par l'AFP, le résultat devrait être annoncé ce vendredi. Bras droit du président sortant Mahamadou Issoufou, M. Bazoum a dépassé le cap du million de voix et comptait plus du double de suffrages que l'ancien président Mahamane Ousmane, son poursuivant direct. Le président de transition malien Bandao, installé par les militaires après le putsch du 18 août, s'est porté garant jeudi d'un retour au pouvoir de civils élus dans les délais prévus, assurant que personne ne prendra le processus en otage. Dans son message aux Maliens à l'occasion de la nouvelle année, Bandao a déclaré que l'essence de la transition résidait dans la préparation et la tenue d'élections incontestablement propres et tenues à date. Le calendrier en est actuellement discuté, a-t-il dit, selon le texte de son discours publié sur les réseaux sociaux. Bandao, ancien officier sorti de sa retraite par les colonels qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août, a prêté serment fin septembre à la présidence, l'un des organes de la transition mise en place par les militaires. La mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour a mis fin jeudi à une opération de 13 ans dans cette région de l'ouest du Soudan, un retrait qui inquiète vivement ses habitants. Le conflit entre forces loyales au régime de Khartoum et insurgés a fait quelque 300 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés, essentiellement durant les premières années, selon les Nations Unies. Le retrait des quelque 8 000 membres de la mission onusienne, militaires, policiers et civils, doit s'étaler sur une période de 6 mois à partir de janvier. Le gouvernement soudanais prend ainsi la responsabilité de la protection des populations de la région. Coronavirus, le Tchad renforce les restrictions pour faire face à la montée vertigineuse des cas confirmés. D'après notre correspondant sur place, André Kotbajinga, le gouvernement a annoncé jeudi le confinement total de la ville de N'Djamena pour une période d'une semaine renouvelable à compter du 1er janvier 2021 à partir de 0h. Des restrictions seront imposées à partir du 4 janvier aux frontières terrestres et aériennes. Un couvre-feu est instauré dans la ville de N'Djamena, la capitale, à partir de 18h jusqu'à 5h du matin. Le monde est entré aujourd'hui en 2021 sous l'influence de la pandémie de coronavirus qui a obligé des milliards de personnes à célébrer le passage au nouvel an dans l'intimité et chez elles, les nouvelles vagues épidémiques contraignant une majorité d'habitants à suivre les célébrations virtuellement depuis leur canapé après des mois de restrictions, voire de confinement à raison du COVID-19 qui a fait au moins 1,7 million de morts dans le monde entier. Et puis ici aux États-Unis, le président Donald Trump est rentré jeudi à Washington, un jour plus tôt que prévu, alors qu'il est engagé dans une bataille avec le Congrès sur un projet de loi sur la défense et sur l'augmentation d'aide directe aux Américains qui s'ajoute à sa tentative continue de contester sa défaite lors de l'élection présidentielle du 3 novembre. Alors que le président Trump est de retour à Washington, le président élu Joe Biden a passé une nuit tranquille dans sa maison du Delaware. Il est intervenu brièvement dans une émission spéciale Nouvel An sur la chaîne de télévision américaine ABC. Et puis le Royaume-Uni a quitté de manière effective l'Union européenne jeudi soir, tournant ainsi le dos à 48 ans d'une vie communautaire tumultueuse pour se diriger vers un avenir post-Brexit incertain dans ce qui constitue son plus important virage géopolitique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Malgré l'accord commercial post-Brexit scellé la semaine dernière entre Bruxelles et Londres, la sortie du Royaume-Uni du marché unique et de l'union douanière devrait entraîner des perturbations aux frontières pour le transfert de marchandises. Nous sommes le vendredi 1er janvier 2021. On marque juste une petite pause et on revient pour la rétrospective 2020 et c'est en compagnie de Michel Joseph. À tout à l'heure.
Meilleurs vœux à tous, Michel Joseph, pour cette rétrospective de l'année 2020. Sur le continent, l'année a été marquée par des élections dans plusieurs pays, la pandémie du Covid-19 et la crise humanitaire dans le Sahel, entre autres. Dans cette édition spéciale, nous ferons un tour avec nos correspondants des faits marquants de l'année en Afrique. On entendra aussi les vœux des Africains pour la nouvelle année qui commence. Au Mali, le bilan de l'année 2020 n'est pas très luisant. Les personnes interrogées présentent un tableau très sombre de cette année. Le pays a connu de nombreux événements tristes et douloureux. Notre correspondant à Gao, Boubacar Touré, a tendu son micro à certaines personnes. Suivons.
Une année s'achève avec ses hauts et ses bas. Une autre commence avec des espoirs nourris. Au Mali, dans le nord du pays, à Gao, la majorité des personnes interrogées présentent un tableau sombre de l'année 2020 pour le pays. Voici les réactions.
L'événement qui m'a beaucoup marqué en 2020, c'est la chute du gouvernement. Le jour, l'après-midi où, après beaucoup de rassemblements, on a renversé le pouvoir. Et surtout au moment où la foule était présente, les militaires sont rentrés, ils ont fait sortir l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta pour l'amener. Je ne cesse de penser à cet événement. Et voilà, du coup, tout a été chamboulé. Et voilà, jusqu'à la date d'aujourd'hui, le Mali est dans une situation que Dieu sauve le Mali.
L'apparition de la pandémie du Covid-19, le coronavirus, qui a fait beaucoup de victimes. Et au même mois de mars 2020, l'enlèvement du chef de file de l'opposition, Soumaila Cissé, à Niafonké. La grogne sociale, les grèves des enseignants, de l'INTM, les mouvements du M5. RFP qui ont conduit au coup d'État. L'embargo imposé par la CEDEAO sur le Mali et qui a mis ce pays encore en retard. Donc vous voyez que l'année 2020 pour nous a été une année noire.
Le dossier de l'ancien président, le général Moussa Traoré, de l'ancien président, le général Amadou Toumani Touré, et tout récemment, le dossier du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. L'année 2020 aussi, c'était aussi des attaques terroristes dans le nord du Mali, avec des assassinats ciblés contre les opérateurs économiques, des chefs militaires, des hauts cadres. Dans le centre du Mali aussi, il y a eu des villages entiers qui ont été ravagés, détruits complètement, si je peux me permettre le mot, les écoles fermées, au niveau du premier cycle jusqu'au niveau supérieur. Je ne me rappelle pas quand même de bons souvenirs que 2020 nous laisse ici au Mali.
Quelques rares personnes ont salué quand même la transition et le début d'un vivre ensemble entre certaines communautés dans le Nord.
La transition avec la mise en place de ces organes peut être considérée comme le seul point positif de l'année 2020.
En toute franchise, 2020, l'événement qui m'a beaucoup marqué comme vraiment positif, c'est concernant vraiment l'article 39 qui a été abordé. Ça, j'étais vraiment très joyeux, très content.
L'événement des Menaka sans armes nous a attiré beaucoup. Vraiment, c'était un grand événement dans lequel tout le monde est présent. Personne n'est resté à la marge de ça. Parce que tout le monde se sent, le noir, le rouge, le blanc, le tout. Nous sommes ensemble aujourd'hui en cohésion sociale. Vraiment, c'est une bonne chose.
Tous prient pour un Mali de paix et de bonheur.
Nous prions le bon Dieu pour que l'année 2021 soit une année de bonheur, de santé, de réussite et de développement pour notre cher pays, le Mali.
Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne et heureuse année à toute l'équipe et à tous les auditeurs à travers le monde. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Au Mali, depuis 2012, le pays est confronté aux mêmes difficultés liées à l'insécurité et la lutte contre le terrorisme. Cette année, en plus de la crise sanitaire, le pays a connu une crise socio-politique qui a conduit à la chute du régime du président Ibeka le 18 août 2020. Une transition de 18 mois est en cours depuis. Quant au coronavirus, il continue de faire ravage dans le pays. Des personnalités politiques comme Soumaïla Cissé ou l'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, qui vivait à Bamako, en sont morts. Kassim Traoré, revient sur certains faits marquants de l'année 2020 au Mali.
Les législatives de 2020, la grève illimitée des enseignants, les délestages interminables et les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus ont poussé certains Maliens à se réunir autour du M5-RFP. Le célèbre cinéaste malien Cheikh Omar Sissoko a donné le ton de ce mouvement le 30 mai 2020 au cours d'une conférence de presse.
Une grande mobilisation pour le sursaut national face à une gouvernance chaotique et prédatrice au risque de partition du pays, la reconstruction des forces armées et de sécurité, la préservation de l'intégrité territoriale du Mali, une gouvernance vertueuse, la justice et la réconciliation nationale, une priorisation de l'éducation et de la santé. La réalisation d'un tel objectif exige la démission du président Ibrahim Boubacar et de son régime.
3 mois de lutte sans relâche ont conduit à la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. C'est là, malgré les multiples médiations de la CEDEAO. Le 18 août 2020, Ibeka et son premier ministre sont arrêtés et conduits à Kati par des colonels de l'armée malienne. Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président du Mali.
Si aujourd'hui, il n'y a plus à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix de m'y soumettre ? Je voudrais, à ce moment précis, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement.
Le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, prend le pouvoir avec comme porte-parole le colonel-major d'aviation Ismaïla Ouagui.
Nous, forces patriotiques, regroupés au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire d'assurer la continuité de l'État et des services publics. La société civile et les mouvements sociopolitiques sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice démocratique à travers une feuille de route qui jettera les bases d'un Mali nouveau.
Avec la chute d'Ibeka le 18 août 2020, une transition a débuté au Mali. Elle ne doit pas dépasser 18 mois. Le président et le vice-président ont prêté serment le 25 septembre 2020. Bandaou, président de transition, chef de l'État.
Je combattrai sans concession des scrutins au coût astronomique. La fraude électorale, l'achat de voix, l'incursion de l'administration dans le processus électoral.
Malgré les assurances données par les militaires, l'insécurité gagne du terrain. Les terroristes ne sont pas vaincus. L'espoir suscité par la transition est loin d'être une réalité. Maman Mariko, jeune leader.
Il serait bon que les Maliens soient appelés dans une conférence nationale souveraine pour que toutes les questions puissent être déposées sur la table. Puis nous sommes en train de nous retrouver dans une sorte de cercle vicieux. Si nous nous prenons garde, nous serons responsables par notre manquement de beaucoup de situations désastreuses. Mais pour que le Mali puisse sortir de tout ce imbroglio-là, il faut aller vers une refondation.
Pour ce qui concerne la maladie à coronavirus, elle est rentrée au Mali le 25 mars 2020. C'est ce même 25 que l'opposant Soumaïla Cissé, victime de cette maladie, a été arrêté à Niafouké alors qu'il battait campagne pour les législatives. Il a passé 6 mois entre les mains de ses ravisseurs avant d'être libéré le 8 octobre 2020. Soumaïla Cissé est décédé le 25 décembre 2020 à Paris. Avant lui, le Mali a perdu 2 de ses anciens présidents. Moussa Traoré le mardi 15 septembre à Bamako, Amadou Toumani Touré le mardi 10 novembre 2020 à Istanbul. Moussa Mara, ancien premier ministre.
Il y a juste une semaine, Soumaïla a fêté son 71e anniversaire devant tout le monde. Il était en pleine forme. Et voilà, une semaine plus tard, voilà ce qui arrive. Cette perte importante dans le pays, en l'espace de 3 mois, que ces pertes soient des occasions de rassemblement, afin que le pays puisse faire face aux défis importants auxquels il est confronté.
Le Mali est dans l'impasse, avec une crise sanitaire, une crise sécuritaire, et déjà certains observateurs disent qu'il y a une crise institutionnelle qui profile à l'horizon, à cause de la mauvaise gestion, dit-il, de la transition par les militaires. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, le président Alpha Condé a été réélu pour la 3e fois le 18 octobre 2020 pour un mandat de 6 ans. Une élection contestée par l'opposition guinéenne et une partie de la société civile. Les deux entités ont milité ensemble au sein du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution. Le FNDC, dont certains membres sont en prison, ont organisé des manifestations sans réussir à empêcher la tenue du double scrutin référendum et législatif. Retour sur une année qui a connu en Guinée des manifestations meurtrières, mais aussi la pandémie de Covid-19, avec notre correspondant Zakaria Camara.
19 octobre, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, l'opposant Sélouda Alain Diallo se déclare vainqueur de l'élection présidentielle du 18 octobre.
Mes chers compatriotes, malgré les anomalies qui ont entaché le bon déroulement du scrutin du 18 octobre et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour.
S'autoproclamer vainqueur avant la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI, une première en Guinée, et pourtant le scrutin présidentiel venait de se dérouler dans le calme. Le même jour, la CENI, par la voix de son porte-parole, précise.
La CENI n'a pour l'instant donné aucun résultat. Elle le fera dès que les CACV, entendez Commission administrative de centralisation des votes, enverront leurs résultats.
Dans l'attente des résultats officiels, des violences éclatent dans la capitale et dans plusieurs villes du pays. Plus de 20 morts dans des violences post-électorales. L'opposant Sélouda Alain Diallo, dont le domicile est assiégé par les forces de l'ordre, appelle ses militants à défendre sa victoire.
Mes chers compatriotes, je compte sur vous pour continuer le combat jusqu'à la victoire. En attendant, je suis prisonnier. Je vous adresse ce message de chez moi, certes, mais entièrement séquestré.
Le 24 octobre, la CENI déclare la victoire du président sort Alpha Condé avec 59% des suffrages contre 33% pour son principal opposant, Sélouda Alain Diallo. Le 7 novembre, la Cour constitutionnelle confirme la réélection d'Alpha Condé, un troisième mandat contre lequel le Front National pour la Défense de la Constitution avait appelé plusieurs fois les Guinéens à manifester. Le 13 mars, la Guinée déclare le premier cas confirmé de coronavirus. Depuis cette date, le pays a enregistré plus de 13 000 cas confirmés, plus de 13 000 guérisons et 80 décès. À quelques heures du réveillon du Nouvel An, plusieurs opposants en prison attendent toujours leur jugement. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
L'année 2020 a été marquée partout dans le monde par la pandémie de Covid-19. Le Togo n'a pas été épargné. Mais cette année a également été une année électorale dans le pays, avec la réélection de Faure Gnassingbé pour un quatrième mandat. Retour sur une année électorale au Togo avec notre correspondante Kayi Lawson.
Tout a commencé le 7 janvier par la désignation de Faure Gnassingbé par son parti pour être candidat. Ils étaient six opposants, dont les deux tenants que sont Jean-Pierre Fabre et Agbeyome Kodjo, à faire face au président sortant. À l'issue du scrutin, le 22 février, Faure Gnassingbé est réélu avec plus de 70% des suffrages exprimés. Il est suivi d'Agbeyome Kodjo, crédité de 19% des voix. La douche froide a été prise par Jean-Pierre Fabre, qui s'est vu accorder un petit 4%. Arrivé en deuxième position, le candidat Agbeyome Kodjo, porté par la dynamique Monseigneur Kodjo, n'a jamais reconnu la victoire de Faure Gnassingbé. S'en suivra une contestation sur laquelle revient Ghislain Nyakou, directeur exécutif du collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT.
Dans le cadre de cette contestation, il y a eu plusieurs arrestations, dont même l'arrestation du docteur Agbeyome, portée par la dynamique Monseigneur Kodjo, qui revendiquait aussi la victoire de ces élections. À part ces arrestations, il y en a eu encore d'autres, notamment récemment l'arrestation de Madame Brigitte Adjamagbo et d'un autre de la dynamique Kodjo qui ont été libérés.
Après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle le 3 mars, il faudra attendre deux mois pour que le président élu prête serment le 3 mai, un comité restreint à cause de la pandémie de COVID-19. Ce n'est que le 28 septembre que le chef du gouvernement sera nommé en la personne de Victoire Dobet-Omega. Une femme à la primature, c'est une première au Togo. Un événement qui ne peut pas passer sous silence, estime Sonia Mokpokpo-Dosé, directrice exécutive de l'ONG Cercle d'aide Femmes et Enfants Café.
Quand on parle du chef du gouvernement et que c'est une femme qui est là, ça prouve combien de fois on veut encore une fois montrer le leadership de la femme, ce que la femme est capable de pouvoir faire. Nous saluons l'ensemble du gouvernement qui est un peu plus féminin par rapport aux autres gouvernements. Et au-delà de ça, nous exhortons ces femmes de faire encore un peu plus de preuves pour démontrer que vraiment avec les femmes, nous pourrons aller très loin.
En 2020, des événements tels que l'assassinat du colonel Bitala Madjoulba, commandant du 1er bataillon d'intervention rapide, le procès relatif au détournement de fonds dans le secteur des hydrocarbures baptisé dans le pays, Petrol Gate, et les bastonnades de population lors du couvre-feu ont marqué l'actualité. Pour cette année 2021, les vœux sont à la hauteur des attentes.
Pour 2021, le souhait d'abord, c'est le renforcement de la cohésion sociale dans le pays. À travers une meilleure organisation des institutions de la République, à travers aussi une meilleure distribution du bien public.
Bonne année 2021 sur les airs du groupe togolais Toufan. Kailosol, Lomé, VOA Afrique.
L'année 2020 s'est achevée, une année tendue, difficile, avec l'apparition et la propagation de la COVID-19. À Bouaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire, notre correspondant Siriki Barrault a tendu son micro aux habitants de cette ville. Rétrospective de l'année écoulée et perceptive pour 2021. Écoutons les réactions de quelques populations.
Michel Kwame, 2020, c'est qu'on retient pas d'emploi pour la jeunesse. Le pays est resté sur un pied. Vraiment, ça ne nous est pas beaucoup arrangé. Avec beaucoup de crises, beaucoup de maladies, beaucoup de tensions dans le pays. Vraiment, ça a carrément mis le pays en retard. Vu que nous sommes les entrepreneurs, nous, du coup, ça a cassé notre rythme de travail. 2021, vraiment, on souhaiterait la paix en Côte d'Ivoire. Surtout la paix, l'amour entre nous, Ivoiriens, entre nos frères et sœurs, beaucoup d'emplois, tous ceux qui apportent de l'emploi, qui viennent surtout dans la ville de Bouaké. Bouaké veut redémarrer et Bouaké est en train de redémarrer. On souhaite surtout beaucoup de paix à Bouaké.
Manmanje Kibali, 2020 était une année vraiment attendue par tous, mais malheureusement, il y a eu tellement d'événements malheureux. La COVID-19 qui a bouleversé plusieurs projets et également les élections. En Côte d'Ivoire qui ont apporté pas mal de regains. Donc nous pouvons dire que 2020 était une année pas vraiment belle pour tout un chacun. Mais par contre, nous dirons aussi que nous sommes en vie, en santé. On remercie Dieu pour cela. 2021, je souhaite du bonheur, de la santé, un emploi digne de ce nom. Et pour la Côte d'Ivoire, je souhaite la paix, l'entente entre les Ivoiriens. Et je demande pardon aux politiques de faciliter les relations entre les Ivoiriens et que la Côte d'Ivoire retrouve son image d'antan.
2021, on demande au Tout-Puissant que l'année 2021 soit une année de santé, de prospérité, de longévité, de succès pour tous, beaucoup d'amour. Car la vie sans l'amour, c'est une existence. Quand on vit, il faut qu'on arrive à s'aimer.
Les attaques terroristes, le Covid-19 et surtout les élections consacrant la succession du président Issoufou. Bilan de 2020 au Niger avec notre correspondant Abdelrazak Idrissa.
En 2020, comme la plupart des pays du monde, l'actualité du Niger a été marquée par la pandémie de la maladie à nouveau coronavirus, la COVID-19. Le premier cas a été enregistré et annoncé le 9 mars.
Il s'agit d'un sujet de nationalité nigérienne, âgé de 36 ans.
En prévision déjà à ce premier cas, la maladie faisant rage ailleurs, les autorités ont pris plusieurs mesures préventives.
fermeture des aéroports internationaux de Niamey et de Zinder.
Au début du mois de mai, certaines de ces mesures ont été levées, notamment la réouverture des écoles et des lieux de culte.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Les gens étaient coincés. Comment nous allons faire ? Wallahi, nous avons évité la catastrophe.
L'impact économique de la maladie a été évalué à des milliards de francs CFA de pertes par les autorités.
Le gouvernement a estimé les besoins financiers à 597 milliards de francs CFA. Soit 7,4% du PIB, dont 159 milliards pour les mesures de soutien sanitaire et de lutte contre la pandémie.
Le Niger en 2020, c'est aussi la question sécuritaire. Confronté au terrorisme, le pays a été plusieurs fois endeuillé par les attaques des différents groupes, en particulier ceux du nord malien voisin du Niger. C'est le cas de l'attaque de janvier 2020 contre le poste militaire de Shinagoder.
Après ratissage, le bilan se présente de la façon suivante. Côté ennemi, 89 morts. Côté ennemi, 77 morts.
Le choc de cette attaque a poussé les autorités à procéder à un changement à la tête de la hiérarchie militaire. Même cela n'a pas empêché au groupe terroriste d'attaquer encore une fois un poste militaire à la frontière malienne. C'était le 12 mars, le poste de Aïrou est attaqué avec un bilan d'au moins 8 soldats nigériens tués. Le dernier fait de l'actualité sécuritaire à retenir en 2020 au Niger reste l'attaque terroriste de Kouré à une soixantaine de kilomètres de Niamey, la capitale. C'était le 9 août 2020. L'autre sujet de l'actualité de cette année 2020 qui s'achève au Niger, c'est évidemment la politique. Le pays organise en effet des élections générales en fin d'année. Pour la présidentielle, 30 candidats sont en liste, sans le président sortant, dont le deuxième et dernier mandat arrive à échéance en 2021. Contrairement à ses pairs guinéens et ivoiriens, Issoufou Mahamadou n'a pas modifié la constitution pour s'offrir un troisième mandat. Il a plutôt choisi un dauphin pour lui succéder. Il s'agit de son ancien ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum. Voici en résumé les quelques points saillants de l'actualité de cette année 2020 qui s'achève ici au Niger.
L'année 2020 au Cameroun a été fortement marquée par la crise sanitaire du Covid-19. La situation sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en zone anglophone. Le climat politique tendu entre certains partis de l'opposition et le régime en place. Le regard rétrospectif avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jelintap.
Le 6 mars 2020, le Cameroun enregistre son premier cas confirmé de coronavirus. Il s'agit d'un cas importé. Le patient est arrivé quelques jours plus tôt au Cameroun. Dans la capitale, les Camerounais sont pris de panique.
Comment cet homme est venu entrer au pays depuis que la maladie est arrivée? Et c'est pas si le ministre de la Santé n'a pas mis au niveau de l'aéroport pour contrôler ceux qui entrent, ceux qui sortent.
Nous sommes dans un pays pauvre et sous-développé. Et rien que pour cela, les autorités camerounaises devaient prendre des dispositions vraiment drastiques pour que toutes nos frontières, aéroports y compris, soit vraiment sécurisé. Parce que quand c'est comme ça, ça va être vraiment du n'importe quoi. Les hôpitaux sont déjà assez surchargés. Où vont aller les malades?
Malgré la crise sanitaire, une autre crise a continué à faire des victimes au cours de l'année 2020 en zone anglophone. Plus de 3000 morts et 700 000 déplacés, selon de nombreuses ONG, en 4 ans de conflit entre les séparatistes et l'armée. Dans un contexte de persistance de la crise anglophone, l'opposant Maurice Kamto a appelé aux marches visant, citation, à chasser le président Paul Biya du pouvoir. Mais la veille des dites marches, sa résidence est placée sous surveillance. Le dispositif sera levé après 77 jours, en début décembre. Maurice Kamto, président du MRC.
On n'a pas simplement dit, nous allons marcher au 22 septembre pour chasser le président en fonction. Nous avons dit, s'il n'a pas commencé au moins à régler la crise anglophone avec le cessez-le-feu, parce que nous ne pensions pas qu'on pouvait lui imposer que bon en 2 jours vous réglez. Non, mais il y a quelque chose qui peut donner un signal fort et faire baisser les tensions là-bas, c'est de dire nous déclarons le cessez-le-feu.
Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
C'est tout pour notre magazine spécial consacré aux faits marquants de l'année en Afrique. Merci à tous nos correspondants. Merci à Bagassi Koura pour la préparation de ce programme spécial. À la présentation, c'était Michel Joseph. Toute l'équipe de VOA Afrique se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2020.